Chapitre 19.
Émile ! Émile !
Joanne hurle à plein poumon dans les ruelles de Périgueux-de-Mer. Ce matin, elle est partie rejoindre Sébastien qui pêchait près du port. Émile dormait toujours. Elle n'a pas voulu le réveiller. Elle lui a simplement laissé un petit mot sur la table, à côté de la tasse qu'elle lui avait préparée. « Sébastien m'a invité à aller pêcher avec lui. Je serai de retour à midi au plus tard. On sera à une centaine de mètres du port, en direction du magasin de canoë. Tu peux nous rejoindre quand tu te lèveras. » Elle a rejoint Sébastien. Elle a surveillé plusieurs fois qu'Émile n'arrivait pas en scrutant les ruelles, mais elle ne l'a pas vu. « T'es pas concentré !» a noté Sébastien. Alors elle s'est appliquée. Elle a un peu oublié Émile. Puis le clocher de l'église a sonné midi et elle s'est dépêchée de rentrer au camping-car car elle lui avait promis de rentrer pour midi. Elle a senti que quelque chose n'allait pas quand elle a vu la table et la tasse toujours au même endroit, comme si Émile n'avait pas pris de petit déjeuner. Puis la porte du camping-car restait grande ouverte. Elle a appelé « Émile, Émile !» puis également « Poc !» L'intérieur du camping-car était vide. Les placards étaient ouverts comme si quelqu'un avait fouillé à l'intérieur, mais rien n'avait été volé. La preuve, les téléphones portables trônaient tous les deux sur le plan de travail, allumés. Un des albums photos d'Émile était ouvert par terre. Son propre portefeuille avait été ouvert et les papiers d'identité s'étalaient sur le sol. Elle a encore appelé
« Émile ! Émile !»
Jamais il ne se serait éloigné en laissant le camping-car grand ouvert. Jamais il n'aurait pu permettre que Poc se sauve ou se fasse écraser par une voiture. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Elle a pensé à une attaque, à un cambriolage, mais rien ne semblait avoir été dérobé. Elle a décidé d'aller jusqu'au ponton. Émile n'y était pas. En revanche, elle a retrouvé Poc, allongé de tout son long au soleil.
« Allez, viens, mon gros, on rentre !»
Elle l'a ramené au camping-car en essayant de ne pas céder à la panique. Elle parlait au chaton pour se rassurer.
« Tu sais pas où il est parti, toi ?»
Elle a vérifié s'il avait pris des affaires avec lui avant de partir. Mais il ne manquait rien. Elle a commencé à céder à la panique. Elle a refermé le camping-car et elle est remontée dans le village, le cœur battant à tout rompre. Elle s'est mise à dévisager tous les gens sur son chemin, pour voir si aucun d'entre eux n'était Émile, errant dans les ruelles, en proie à un nouveau blackout. Elle a commencé à l'appeler, doucement, puis plus fort.
« Émile !»
La peur lui comprimait les poumons. Elle revoyait leurs deux téléphones portables posés sur le plan de travail allumés. Qu'avait-il fait? Avait-il eu un nouveau blackout? Avait-il pu appeler quelqu'un?
« Émile !»
Avait-il appelé ses parents? Leur avait-il révélé où ils se trouvaient? Elle l'avait déjà vu faire un blackout. Elle a déjà lu la confusion dans ses yeux. Elle l'a déjà entendu suffoquer. Elle a vu dans son regard qu'il ne la reconnaissait pas. Et si ça s'était reproduit? Quelqu'un avait-il eu le temps de venir le chercher? Sa famille? Un hôpital? La police? Elle s'est à peine aperçue que des larmes avaient coulé sur ses joues. Elle ne s'entend pas non plus crier son prénom. Si cela s'est produit, s'il a appelé quelqu'un, alors elle aura failli à sa promesse. Elle a juré de veiller sur lui, de le garder loin de ses proches, de l'hôpital. Si cela s'est produit... Elle ne comprend pas quand elle voit Sébastien surgir devant elle.
« Joanne ! Joanne, ça va ?»
Elle réalise à peine que ses pas l'ont menée devant Jour de pêche, qu'elle est venue chercher son aide.
« Joanne ? Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu pleures ?»
Elle s'efforce de se calmer, de prendre une voix mesurée.
« Émile a disparu.
Quoi ?»«
Émile n'est plus au camping-car. Toutes les affaires ont été fouillées, je sais pas où il est parti. »
Il la force à s'asseoir sur une chaise en terrasse.
« Attends, tu... Quelqu'un a cambriolé le camping-car ?»
Elle secoue la tête. Elle a bien la sensation que ses explications sont confuses, mais la panique l'empêche de se montrer plus claire.
Il est parti. Il a dû se perdre.
Sébastien secoue la tête et s'efforce de ne pas sourire.
Joanne, calme-toi. C'est un grand garçon. Il est simplement parti faire une course. Il connaît la ville. Il ne se perdrait pas.
C'est pas ça.
Qu'est-ce qui...
Il perd la mémoire.
Quoi ?
Il faut qu'on le retrouve, il s'est perdu.
Elle en est certaine maintenant. S'il s'est réveillé la mémoire effacée, il a dû vouloir essayer de comprendre ce qu'il faisait là. C'est pour ça qu'il a fouillé les placards. Il a trouvé son album photo. Il a trouvé le portefeuille de Johan et ses papiers d'identité qui indiquaient Johan Marie Trognier. Il s'est sans doute demandé qui elle était, ce qu'il faisait là. Peut-être a-t-il trouvé le livret de naissance et leur acte de mariage qu'elle conserve dans son portefeuille. Ensuite, il a dû vouloir allumer les téléphones pour essayer de comprendre. Il a peut-être appelé quelqu'un. Son sang se glace. S'il a appelé quelqu'un, c'est forcément ses parents. Alors il leur a peut-être révélé où il se trouvait. À moins que ça aussi, il l'ait oublié. Il a dû sortir, il a dû errer sur la nationale, dans les ruelles, en proie à une panique totale, sans comprendre ce qu'il faisait là. Sébastien a posé ses deux mains sur ses genoux pour essayer de la calmer.
« Tu veux qu'on appelle les hôpitaux, le commissariat ?»
Elle hoche la tête frénétiquement.
« Oui, oui, c'est ce qu'il faut faire. »
Elle voit un homme rejoindre Sébastien, probablement son père. Il a les cheveux grisonnants et un air sévère. Ils échangent des mots. Elle entend Sébastien lui demander son téléphone. L'homme repart.
« On va appeler. Essaie de te calmer, Johan. »
Elle a l'impression de partir en arrière, comme si sa tête basculait. C'est à cause des mots « Essaie de te calmer, Johan » et de la panique en elle. Elle a entendu ces mêmes mots par le passé alors qu'elle était dans ce même état de panique.
« Ils l'ont sorti de l'eau. Essaie de te calmer, Johan. »
La voix de Léon, la voix la plus haïe de tout son univers. Elle revient à elle quand Sébastien pose une main fraîche sur sa joue.
« Johan ?»
Elle cligne plusieurs fois des yeux. Sébastien la regarde avec inquiétude.
« Tu as fait un malaise ?»
Elle secoue la tête et tente de se relever. Elle ne sait pas combien de temps s'est écoulé. Elle a sans doute fait un malaise, c'est vrai.
« Tu as appelé ?»«
Je viens de te le dire. »
Elle cligne de nouveau des yeux.
« Quoi ? » ?»«
Il est au commissariat. »
Elle a l'impression qu'on lui déverse un seau d'eau sur la tête. Elle ne sait plus si elle est soulagée de le savoir en vie au commissariat ou si elle est paniquée à l'idée des conséquences à venir. Vont-ils vouloir le garder, le confier à un hôpital ?
« Je t'y amène !» déclare Sébastien.
Elle ne cherche pas à résister. Elle court dans le hall du commissariat, suivie de près par Sébastien qui lui chuchote de ralentir. Émile est assis sur une chaise du hall à côté d'un policier. Au premier regard, elle s'aperçoit tout de suite qu'elle a eu raison. Il a fait un nouveau blackout. Ses yeux expriment une détresse totale. Il a l'air absent à lui-même et en même temps en proie à une terreur sans nom.
« Je viens le chercher, je suis sa responsable légale »,
lance Johan au policier sans même songer à le saluer. Elle lui tend son portefeuille et l'ensemble de ses papiers d'identité qu'elle a récupérés tout à l'heure sur le sol du camping-car. Émile lève la tête vers elle et ses yeux la glacent.
« C'est toi que j'oublierai en premier. »
Elle comprend que ça s'est produit. Ses yeux sont vides. Elle n'y retrouve plus rien de ce qu'elle a appris à connaître pendant ces quelques mois de voyage à deux. Il ne la reconnaît pas. C'est même pire encore, car il a l'air paniqué en la voyant approcher et déclarer qu'elle est sa responsable légale.
« Attendez, ma petite dame !» l'interrompt le policier en se levant. « C'est vous qui m'avez appelé ?»«
C'est moi !»
intervient Sébastien en se plaçant à côté de Johan.
« Elle... il s'est perdu et... »
Johan l'interrompt brusquement.
« Il souffre d'un Alzheimer précoce. »
Le policier les regarde alternativement tous les trois.
« Ce monsieur avait l'air confus, en effet. Il semblait croire qu'il avait été kidnappé. »
Johan ferme brièvement les yeux pour ne pas céder à la panique nouvelle qui l'envahit. Malgré tout ce qu'elle pensait, elle n'est pas préparée à ça. Qu'est-ce qu'elle est supposée faire si la mémoire ne lui revient pas ? L'emmener de force avec elle ?
Ça lui arrive, il souffre de blackout.
Parvient-elle à bégayer la bouche sèche ?
Il lui arrive de se perdre.
Bon.
Le policier saisit les papiers que Johan lui tend depuis quelques secondes à bout de bras.
Et vous êtes ?
Sa femme. Nous sommes mariés. »
Elle voit les yeux de Sébastien s'agrandir de stupeur à ces quelques mots. Ceux d'Émile n'expriment rien d'autre qu'un profond effroi, tellement grand qu'il semble en avoir perdu l'usage de la parole. Le policier lui désigne un petit box vitré dans le hall.
« On va aller régler ça dans mon bureau ?»
À travers les murs vitrés du box, Johan voit Émile, immobile, comme en état de choc, muet, les mains crispées sur ses genoux. Sébastien s'est assis à côté de lui. Il semble presque aussi perdu, à la différence près que ses yeux expriment maintenant davantage l'incrédulité que l'effroi.
« Donc, vous me disiez qu'il était suivi dans un centre d'essai clinique ?»«
Oui. »«
Sur Rohan ?»«
Sur Rohan. »
Le policier récupère le double du certificat de mariage qui sort de la photocopieuse.
« Et qu'il a décidé de mettre fin à cet essai. »
Elle hoche de nouveau la tête en essayant de déglutir.
« Suit-il encore des traitements ?»«
Non. »
Le policier griffonne quelques mots sur son carnet.
« Il va falloir faire attention à lui à l'avenir. »«
Oui, je serai plus prudente. »«
Faudrait éventuellement penser à le placer en centre, hein, pour éviter ce genre de désagrément. »
Elle a la gorge sèche, mais elle tient bon.
« Je veillerai sur lui. »
Le policier fait tourner la carte d'identité de Johan entre ses mains.
« Il n'a pas d'autre responsable légal ? Des parents ?»
Elle sent la peur lui comprimer la cage thoracique. Elle parvient tout juste à parler d'une voix sourde.
« Plus depuis que nous sommes mariés. »
Le policier acquiesce et repose la carte d'identité de Johan sur son bureau en produisant un bruit de succion avec sa bouche.
« Bien sûr, en toute logique. »
Elle ne peut s'empêcher de poser la question qui lui brûle les lèvres.
« Vous avez appelé quelqu'un ?»«
Pardon ?»«
Ses parents ?»«
Non, on a reçu votre coup de téléphone alors qu'il venait d'arriver au commissariat. »
Elle tente de masquer le soulagement qui l'envahit tout à coup. Elle essuie ses mains moites sur son pantalon et déglutit de nouveau.
« Je vais pouvoir le ramener ?»
« Bien sûr. »
Le policier se lève et rassemble les photocopies qu'il a faites. Il tend à Johan sa pièce d'identité et son certificat de mariage, puis il la raccompagne à la porte de son box.
« Faites attention à l'avenir. »
« Oui, je suis désolé pour ce désagrément. »
« Je vous en prie, madame. »
Le premier visage qu'elle voit en se retournant vers le hall est celui de Sébastien, qui s'est levé pour venir à sa rencontre. C'est un visage pâle et étrangement défait.
Il a retrouvé ses esprits, je crois.
Sébastien se décale légèrement et elle aperçoit Émile, les épaules voûtées, la tête entre ses mains. Il semble sangloter. Elle a posé une main sur son épaule tout doucement pour ne pas l'effrayer et il a levé sa tête vers elle. Il n'y avait pas de larmes sur ses joues, juste un mélange de tristesse et d'amertume. Il a entrouvert la bouche et il a prononcé
« Johan ?»
Elle a acquiescé, luttant pour contrôler ses nerfs.
« Viens, on rentre à la maison. »
Il l'a suivie hors du hall sous le regard des policiers. Sébastien attendait sur le parvis baigné de soleil à l'extérieur.
« Je sais pas ce qui s'est passé, »
a murmuré Émile.
« C'est pas grave. »
Maintenant, ils marchent tous les trois dans les ruelles baignées de soleil de Peyriac-de-Mer. Ils déambulent en silence. Sébastien est devant, les mains dans les poches, ne sachant plus vraiment s'il doit rester avec eux ou leur fausser compagnie. Émile et Johan sont quelques pas derrière. Johan a l'air soulagé, même si son visage est encore extrêmement pâle. Émile ne cesse de lui jeter des regards inquiets.
« T'as pleuré ?» dit-il.
« Non. »
« Si. » « Je t'ai fait peur, et t'as pleuré. »
Cela semble le miner. Johan choisit de changer de sujet.
« J'arrête pas de me dire, depuis qu'on est sorti de ce commissariat, si on l'avait pas fait, si on s'était pas marié. »
Ils n'ajoutent rien tous les deux. Ils savent pertinemment ce qui se serait passé. Sébastien s'arrête au coin de la ruelle. Il désigne le restaurant de son père au loin.
Je vais vous laisser. »
Il se balance d'un pied sur l'autre, mal à l'aise, les regardant tour à tour.
« Donnez-moi des nouvelles.
J'espère que ça ira, Émile.
Émile acquiesce.
Merci d'avoir aidé Joanne à me retrouver.
C'est rien.
Sébastien se gratte la gorge et se balance encore plus rapidement d'un pied sur l'autre, comme s'il voulait ajouter quelque chose. Il hésite un instant.
Je savais pas que t'étais malade.
Puis la suite tombe à son tour.
Je savais pas que vous étiez mariés.
Il a l'air triste et déçu. Joanne répond d'un ton un peu distant.
Ça n'avait aucune importance que tu le saches ou non.
Puis elle ajoute avec un peu plus de douceur.
Il va rentrer se reposer. À un de ses jours.
Ouais, à un de ses jours.
Tu lui as brisé le cœur.
Émile se surprend à tenter de plaisanter. Il n'a pas vraiment envie de rire. Il essaie juste de rendre les choses moins lourdes et pénibles.
Il s'en remettra,
déclare-t-elle avec un étrange détachement. Joanne a l'air sacrément secouée. Ils sont livides tous les deux quand il s'assoit à la table pliante devant le camping-car.
Je te fais un thé ? Propose Émile.
Elle secoue la tête.
Tu devrais te reposer.
Je n'ai pas sommeil.
Il se lève et va remplir la bouilloire. Il se sent coupable de lui infliger tout ça. Dans le plan initial, tout était plus simple. Ils partaient tous les deux, ils perdaient la mémoire et ne s'en émouvaient pas. Il était prêt à ça. Il avait fait ses adieux à tout le monde en quittant Roanne. Elle se débrouillait pour le maintenir éloigné de sa famille. Elle était d'accord sur les termes. Oui, mais voilà, il s'est écoulé plus de 4 mois depuis. Qu'ont-ils fait pour que tout change à ce point ? Tout paraissait si simple. Elle n'était pas censée pleurer à l'idée de l'avoir perdu. Et lui n'était pas censé dépérir à l'idée de l'oublier. Peut-être que... Il prépare le thé avec des mains légèrement tremblantes. Une petite voix s'insinue dans sa tête. Peut-être qu'il n'aurait pas dû se marier. Peut-être qu'il n'aurait pas dû emménager dans ce studio ensemble, adopter un chat, dormir dans le même lit et partager une part de gâteau en pleine conscience. Peut-être qu'ils auraient dû se contenter d'être des inconnus l'un pour l'autre. Elle avait raison l'autre jour sur l'îlot de la Nadière. Au début, il était heureux, et puis il s'est éteint ces derniers temps. Mais pas pour les raisons qu'elle imagine. Il avait pris la route en n'ayant absolument plus rien à perdre, plus personne à qui se raccrocher. Il avait accepté l'idée de quitter ses parents, sa sœur, son meilleur ami. Sa vie s'était à demi éteinte quand Laura était partie. Et puis, la faible torche qui continuait de trembloter depuis son départ s'était définitivement évanouie à l'annonce de la maladie. Il était monté dans ce camping-car serein, puisque cette fois-ci, il n'avait plus rien. Il s'était résolu à l'idée de partir définitivement. Il n'avait plus qu'à profiter de quelques bribes de bonheur que lui offrirait encore la vie avant de disparaître. Le deal était clair. Mais au lieu de partir tout seul, il avait fallu qu'il poste cette stupide annonce. Il avait ramassé cette fille, totalement égarée, sur cette aire d'autoroute. Et alors, au lieu de s'effacer à la vie petit à petit, il s'y était accroché avec encore plus de force. À cause d'elle. Parce qu'elle lui avait montré toute la beauté du monde, toute la pureté des sentiments, toute la bonté qui pouvait émaner des êtres. Il avait appris à la voir sourire chaque jour davantage, à la regarder écrire dans son carnet, veiller sur Poc, observer le ciel et s'asseoir en tailleur sur un ponton. Il ravale avec difficulté la boule qui lui obstrue la gorge. Il s'éteint, c'est vrai. Il se laisse engloutir par l'angoisse et la peur, de jour en jour. Et tout ça, c'est à cause d'elle. Totalement à cause d'elle. Parce qu'elle l'a réveillé à la vie d'une façon totalement inattendue. Et aujourd'hui, il se sent plus vivant que jamais. Aujourd'hui, grâce à elle, il ne veut plus quitter le monde. Cette idée le terrifie. Et l'idée de la voir disparaître de ses souvenirs lui est devenue insupportable. Il tente de ne pas suffoquer en saisissant la bouilloire et en versant l'eau dans les tasses.
« Ça y est », prononce-t-il d'une voix étranglée. « Ça arrive. »
Ils sirotent leur thé en silence en reprenant un semblant de couleur. Joanne a une voix sourde quand elle demande.
« Les téléphones, ils étaient allumés. Tu as appelé quelqu'un ?»
Il répond le nez dans sa tasse.
« Je connaissais plus mon code PIN. Mon téléphone est resté verrouillé. »
Elle ferme les yeux de soulagement et elle demande encore.
Et le mien ? Le mien n'a pas de code PIN.
Elle semble craindre sa réponse.
Non, j'ai reconnu aucun nom dans le répertoire. Ça m'a rendu dingue, alors. Je suis sorti et j'ai tout laissé comme ça.
Elle comprend à sa voix fuyante qu'il ne veut plus en parler. Ils se remettent à boire leur thé lentement, les yeux fixés dans le vide.
On devrait quitter Périac, non ?
Murmure Johan au bout d'un instant. Il hausse les épaules. Il a un peu perdu la notion du temps. Un autre des symptômes de la maladie qui le tue à petit feu.
« Ça fait longtemps qu'on est ici ?»
demande-t-il.
« 2 semaines. »
Il ne sait pas si ça lui paraît long ou non. Il veut bien partir, reprendre la route. Mais Johan avait l'air si bien ici, en compagnie de Sébastien et Lucky. Pourtant, elle ajoute.
« Tu voudrais pas voir la mer ?»
Elle le sonde. Il ne scie toujours pas.
« On n'est plus très loin maintenant. »
Il a l'impression qu'elle en a envie, elle aussi. Alors il acquiesce.
« Ouais, on pourrait aller voir la mer. »
Il ne sait pas s'il fait particulièrement froid cette nuit-là dans le camping-car ou si c'est l'angoisse qui le fait grelotter comme ça. Il tremble de tous ses membres. Il a la mâchoire raide, ses dents claquent. Il a du mal à respirer comme si un étau l'enserrait, comme s'il allait mourir cette nuit asphyxié par sa propre angoisse.
Émile ?
Il a prié pour ne pas réveiller Johan, mais c'est trop tard.
Émile ?
Répète-t-elle dans un murmure. Au bout du lit, il voit Poc rouler en boule, profondément endormi. C'est bien le seul d'entre eux.
Quoi ?
Dit-il, feignant de ne pas savoir pourquoi elle chuchote en pleine nuit.
Ça va ?
Elle ajoute d'une voix précipitée.
Tu fais un nouveau blackout ?
Il se tourne vers elle pour lui faire face. Dans l'obscurité, il parvient quand même à deviner les traits de son visage et ses cheveux sur l'oreiller.
« Non, ça va. Je me sens juste un peu oppressé. »
Il voit 2 petits plis se former sur son front.
« C'est rien. Rendors-toi, Joanne. »
1 heure a passé, peut-être. Poc a changé de position 2 ou 3 fois, mais Joanne est restée immobile. Émile sait qu'elle ne dort pas. Il en a l'intime conviction.
« Joanne ?»
Le chuchotement n'aurait pas pu la réveiller. Pourtant, ses 2 yeux sont grands ouverts et le fixent.
Oui.
Il a longuement hésité, mais il se dit qu'après ce qu'ils viennent de vivre ensemble ce matin, cela lui semble naturel.
Tu crois que...
Il déglutit.
Tu crois que tu pourrais venir là ?
Il termine dans un souffle.
Contre moi ?
Il voit la silhouette fine de Johan soulever la couverture et se rapprocher en silence. Elle pose sa tête sur son épaule et une de ses minuscules mains sur son bras. Il n'ose pas la serrer trop fort, de peur de la briser.
« Merci »,
murmure-t-il dans ses cheveux. 17 octobre, 18h50. Sur le ponton, dernier coucher de soleil sur l'étendue d'Oule. Nous partons demain pour Bage, le village que nous avait recommandé Sébastien pendant la virée en bateau. Après Bage, nous irons à Gruissant pour voir la mer. L'automne est bel et bien installé. En plus des arbres, qui se sont colorés de lueurs orangées, le froid est arrivé. Le chauffage d'appoint commence à tourner à plein régime. Johan a passé l'après-midi au port, puis sur la plage aux dunes, pour immortaliser sur ses toiles les derniers instants à Périac de mer. Je sais que Sébastien était là aussi, qu'il a voulu passer un dernier moment avec elle. Je ne sais pas ce qu'elle lui a raconté à propos du mariage. La vérité, probablement. Ce soir, on l'a invité à dîner au camping-car pour le remercier de son accueil à Périac et lui dire au revoir. J'ai préparé un gratin de légumes d'automne. Qui aurait cru que je sois capable de cuisiner des trucs pareils un jour ? Comme j'avais un peu de temps avant que Sébastien n'arrive, j'en ai profité pour venir m'installer sur le ponton. Je suis donc face au tout dernier coucher de soleil sur l'étendue d'Oule. Les flamants roses sont là, ainsi que les scintillements des rubis dans l'eau. Je regretterai ce ponton et ses couchers de soleil. J'aime me dire que les suivants seront tout aussi exceptionnels. Ils sont tous les 3 serrés autour de la table, sur la banquette du camping-car, le chauffage d'appoint posé à leurs pieds. Malgré cela, Johan est emmitouflé dans un large gilet noir et Émile porte une écharpe autour du cou. Seul Sébastien semble s'accommoder de la température fraîche de la mi-octobre. Il a amené un panier rempli d'oranges. Pour le dessert, a-t-il précisé. Ils ont mangé le gratin pendant qu'ils s'enquéraient de leur future destination. Chacun essaie de faire au mieux pour ne pas évoquer l'épisode du commissariat et la maladie d'Émile. Sébastien a demandé s'il pourrait lui envoyer des cartes postales des endroits où ils iraient, pour qu'ils puissent voyager un peu avec eux, et ils ont acquiescé de bon cœur. Maintenant, Johan amène le panier d'oranges sur la table et Émile la bouilloire et les trois tasses. Sébastien joue avec Poc avec un morceau de lacet qu'il a arraché de sa chaussure.
« Ça va être bien calme ici, » soupire-t-il. « L'hiver à Périac, c'est plutôt morne. »
Il explique qu'il n'y a pas de neige en général et que les touristes ne sont pas nombreux. Son père et lui ferment souvent le restaurant entre janvier et mars. Puis Johan se lève et fouille quelques instants dans le placard mural avant de revenir avec deux toiles qu'elle dépose sur la table devant Sébastien.
« C'est pour toi. »
Il a l'air d'avoir du mal à réaliser ce qu'elle lui dit.
« Moi ? Pour moi ? » ?»«
C'est un cadeau. »
Son visage s'illumine. Il devait être totalement amoureux, le gamin, songe-t-il.
« Tu pourras les mettre dans le restaurant de ton père, si tu veux. » Ou dans ton futur chez toi ?